crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons ensemble une peinture pleine de vitalité intitulée Le Matador, c'est un paradoxe, une huile sur toile de 1,45 m par 1,14 m, réalisée le 4 octobre 1970 à Mougins par notre extraordinaire Pablo Picasso. Elle est aujourd'hui conservée et visible d'ailleurs au musée Picasso à Paris. Le Matador. Saisi à mi-corps, se détachant sur un fond bleu intense, il est assis comme un roi sur son trône. Un bicorne gancé et spiralé sur la tête et son costume orné de broderies. De sa main gauche, il présente son épée ensanglantée d'épais dépôts de peinture pâle. Dans sa main droite, il tient posé sur ses 5 doigts disposés en éventail un cigare dont les volutes s'élèvent dans l'espace en dessinant dans ces virevoltes des figures étranges, dont les plus hautes sont comme l'illusion des naseaux de la bête. Ses 2 yeux tachés de bleu sont superposés du côté gauche de son visage vert, et avec son nez blanc, ils sont encadrés d'immenses virgules noires qui évoquent les énormes favoris du torero. Les cheveux roux sont rassemblés par une résille et tombent en nattes tenues par 4 nœuds blancs. Derrière lui, un obscur tombeau, une pyramide noire, emplit l'arrière-plan de l'œuvre surmontée de raies brunes qui gribouillent le ciel et s'achèvent en une forme indistincte, éventuellement le poitrail et les pattes d'un cheval informe. C'est le Matador, c'est Goya, c'est Manet, c'est Velázquez, c'est probablement le peintre.
J'ai le sentiment, Jean Villard, on peut tout de suite poser la question, que le Festival d'Avignon ne cesse de s'étendre dans la durée, dans l'espace.
Oui, c'est certain, en tout cas cette année, puisqu'il commence avec l'exposition Picasso le 1er mai.
Et cette exposition Picasso est originale, c'est-à-dire qu'elle porte sur quoi ?
Oui, bien sûr, uniquement les toiles, 167 toiles de Picasso peintes au cours de ces 2 dernières années, exactement, toute l'année 69 et les dernières toiles de 70. Les toiles sont arrivées à Avignon la semaine dernière, toutes fraîches encore. C'est-à-dire et 50 dessins.
On aura la possibilité ensemble de suivre le travail de Picasso presque au jour le jour.
C'est-à-dire que c'est la plus grande exposition de Picasso depuis la rétrospective que l'on avait fait au Grand et au Petit Palais il y a, je crois, 4 ou 5 ans.
Oui, mais cette grande rétrospective portait sur l'ensemble de l'œuvre de Picasso.
Parce que là, ce sont les dernières grandes toiles, je dis bien grandes toiles, enfin de grands formats, comme on dit en termes techniques. Disons que nous sommes très heureux et très fiers de cette chose. Ça, que nous devons à Ivan Zervos, ce qu'il a conçu et qui a évidemment touché Picasso. Et Picasso a dit oui, enfin, c'est agréable pour nous.
Et qui a été, Ivan Zervos, à l'origine aussi du Festival d'Avignon en 1947, c'est-à-dire que Avignon demeure fidèle à soi-même.
Oui, c'est ça, et à Picasso aussi.
Quand on regarde cet ensemble de 165 toiles et de 50 dessins, œuvre d'une seule année, on sait que Picasso a raison quand il dit « Rien n'est jamais fini ». Et, fait extraordinaire, on reste impatient d'en connaître davantage, car les dernières toiles sont de factures si différentes, avec des thèmes nouveaux et des tons si changeants par rapport à ceux de début 1969. Pour Jean Villard, homme de création, il n'était pas question de présenter une rétrospective Picasso, mais des inédits. Ivan Zervos eut l'idée de cette exposition. C'est elle et son mari, Christian Zervos, qui avaient été déjà dans l'entourage de Villard pour le premier festival d'Avignon. Et un destin aveugle l'a privé de voir son vœu se réaliser et nous prive du désir de l'en remercier. Aussi, mis à part quelques toiles de la collection Rosengart à Lucerne, de la galerie Louise Léris à Paris et du collectionneur Norman Granz, l'ensemble n'a jamais été exposé. Et cela est bien dans la tradition avignonnaise, qui est de présenter du nouveau chaque année, de prendre des risques, de lancer de jeunes metteurs en scène, de jeunes auteurs, de jeunes musiciens. Le plus jeune d'entre tous a le courage de prendre des risques en nous montrant toute sa production peinte et dessinée du 5 janvier 1969 au 1er février 1970, soit près de 13 mois de labeur, soit environ une œuvre en moyenne tous les deux jours, sans avoir jamais rien retranché. À nous de juger. Comment voulez-vous qu'on juge chez Picasso ? Nous allons d'une toile à l'autre, et nous allons de découverte en découverte. Cette explosion de couleurs, j'ai déjà parlé des ors et des rouges, mais que dire de ces verts, bleus, bruns, ou bien de l'éclat presque insoutenable de la toile blanche à peine recouverte de quelques tracés précis ? Cette explosion vient après l'extrême recueillement des fameuses 347 gravures exposées l'an dernier chez Louise Leiris. C'est parce qu'il nous avait prouvé une fois de plus ce dont il était capable, jusqu'au plus pur classicisme, qu'il peut tout se permettre dans cette suite de 165 tableaux. Lucien Clergue, Le Figaro littéraire, 11 mai 1970.
Alors c'est dans ce climat des années 70, évidemment, que cette œuvre va apparaître, même si le Matador n'est pas présenté à l'exposition de 1970 au Palais des Papes, mais à celle de 1973. Mais déjà, on sent cette verve qui revient dans ce que l'on a appelé le dernier Picasso et dont nous allons parler aujourd'hui. Et j'ai la chance de recevoir pour cela l'artiste Stéphane Calais. Stéphane Calais, vous êtes peintre, vous êtes un merveilleux peintre, vous êtes un merveilleux dessinateur également. Vous avez en ce moment une œuvre visible au Macval, d'ailleurs, je pense. C'est l'exposition de l'anniversaire du Macval. Et je dois dire que j'ai une grande admiration pour votre capacité à passer avec une grande insolence de la figure, au geste, à l'abstraction, au récit. Et il me semble qu'il y a un certain plaisir chez vous à regarder le dernier Picasso, n'est-ce pas ?
Oui, je pense que... Pour beaucoup de gens de ma génération et puis légèrement aussi plus jeunes, ça a été quelque chose d'assez évident et une découverte assez agréable en fait. Et c'était quelque chose, je vois et j'entendais les conférenciers au musée Picasso la dernière fois qui disaient le rapport aussi entre ce dernier Picasso et ce retour à la peinture des années 80 qui pouvait être envisagé, etc. Des jeunes conférenciers qui guidaient les groupes. Et en fait, je voyais... une grande distance entre ce retour à cette peinture et ça, en fait, dans le sens où c'est tellement violent et tellement gras, en fait, que ça le dépasse même. Et c'était peut-être pour des gens plus jeunes, et je ne sais pas chez moi directement si ça a touché, quelque chose de très profond sur une sorte de nouvelle mauvaise peinture, en fait. Et une vraie, comment pourrais-je dire, puissance dans la surface même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très surprenantes là, c'est qu'on voit tous ces espaces indéterminés dans le tableau que lui détermine. On ne sait pas ce que c'est. C'est de la peinture, et c'est puissamment de la peinture, mais il y a quelque chose d'indéterminé qui apparaît très très fort et avec avec une puissance et quelque chose de très très gras qui est sidérant en fait.
Je trouve ça sidérant et on va explorer ce tableau et les tableaux de cette période-là, mais essentiellement ce tableau, le fameux Matador de 1970, qui sera l'entrée même de l'exposition de 73, je pense. Et pour être soutenu dans notre analyse historique, je suis heureux de recevoir Émilie Bouvard. Bonjour Émilie, vous allez bien ?
Bonjour, oui, ça va.
Vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Picasso, l'exposition anniversaire, qui a lieu en ce moment à l'Hôtel Salé, au musée Picasso, donc à Paris, et dans lequel vous pouvez admirer ce tableau, le Matador dont nous allons parler aujourd'hui. Oui. Vous êtes en train de préparer une exposition sur Guernica et une autre exposition sur la figure humaine qui aura lieu à Budapest. Donc vous êtes en plein Picasso, immergé dans cette profusion de peinture. Émilie Bouvard, peut-être que la première question que je voudrais vous poser, cette figure que nous allons regarder, ce Matador, est-ce que c'est une peinture désinvolte, libre, ou est-ce que c'est une peinture philosophique ?
Déjà, il faudrait le voir dans une série. Et c'est peut-être la série et l'accumulation et la répétition qui sont philosophiques chez Picasso. C'est-à-dire que les matadors et les mousquetaires, qui sont un peu confondus comme personnages chez Picasso, ils apparaissent vers 1966, enfin, au milieu des années 60, et ensuite Picasso va les traiter de manière sérielle et répétée. Vous me demandez si c'est une peinture spontanée. Picasso étant effectivement à cette période de sa vie, il est très très vieux, il découvre une gestuelle plus libre. On ne sait pas exactement ce qui le pousse vers ce mouvement à ce moment-là, sinon peut-être le travail d'après Rembrandt, d'après aussi Van Gogh, et peut-être aussi l'intérêt qu'il porte à certains expressionnistes américains. Je pense que de Kooning est quelqu'un qui l'a re-regardé à son tour, en fait.
Stéphane Gallet parlait tout à l'heure de la façon dont on avait associé à une sorte de bad painting, à une défiguration de la peinture, en fait. Mmh. Est-ce que en 70, 73, quand ces œuvres ont été montrées, je pourrais même dire depuis 66, puisqu'il y avait une grande exposition, je crois, au Grand Palais et au Petit Palais en 66, oui, de Picasso. Est-ce que ces dernières œuvres ont été appréciées?
Alors, la réception de l'exposition, de la première exposition d'Avignon en 70, la réception est partagée. C'est-à-dire, il y a certains critiques qui louent toujours Picasso et d'autres qui commencent à le critiquer et à trouver que cette facture libre est en fait beaucoup trop lâchée, et voir que l'artiste est peut-être en perte de ses facultés. Et en plus, je pense que ça se double d'une critique qui fait remonter des a priori moraux, puisque cette peinture est très érotique, et que ce lâchage doublé des thématiques érotiques choque beaucoup.
Ça vous a choqué, voilà. Stéphane Calais, cet aspect érotique de l'œuvre de Picasso?
Ça, c'est tellement habituel, en fait. Donc, non, mais c'est plutôt la vérité de la chair, en fait, qui est cette espèce de femme fraîche, Ève, qui arrive. En fait, c'est une femme très mature, la femme à l'oreiller, ou des peintures comme ça sont super grasses, effectivement, fantastiques. Mmh. En fait, elles sont gustoniennes. En fait, c'est du Guston, là, qui est là très, très fort.
Un peintre américain. Ah,
Philippe Guston, pardon, oui. Et c'est pour ça, moi, ça m'a fait rire, la cigarette aussi, le cigare du Matador, comme une espèce de choses près gustoniennes. Et justement, je me reposais la question justement des premiers tableaux de Guston et je n'arrivais plus du tout à les remettre par rapport à ça. Et parce que vous parliez de Kooning, effectivement, on pense tout de suite en fait à Woman et à la façon dont il y avait. Et il y a eu aussi ce problème de sénilité qui avait été posé pour de Kooning après, quand il change aussi sa facture complètement aussi.
Oui, donc il faut rappeler que donc, parmi les critiques qui ont été faites à Picasso à ce moment-là, en 70 et 73, il y a eu un vieillard sénile qui s'amuse.
Oui. Oui.
Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui se passe, probablement. Qu'est-ce qu'on appelle, Émilie Bouvard, la dernière période de Picasso? Qu'est-ce que ça commence quand? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une dernière période?
On peut commencer assez tôt, dès les déjeuners sur l'herbe. On peut commencer ça avec le dialogue avec les maîtres, avec le travail d'après les femmes d'Alger de Delacroix.
Mais on
est dans les années 55, 54, 55. Mais je pense que la vraie dernière période, celle sur laquelle il y a eu débat, c'est celle qui est présentée à Avignon. C'est-à-dire, c'est les années 69, 70, 70, 73.
Alors peut-être
c'est le dernier Picasso.
Émilie Bouvard, je voudrais demander à Stéphane, à ce propos-là, un point de vue historique et un point de vue de peintre. Vous avez raison, il se passe quelque chose au milieu des années 50 qui est très grave pour Picasso, qui est la mort de Matisse. La mort de Matisse, c'est pas la mort d'un ami, c'est la mort de quelqu'un qui portait avec lui la peinture sur le dos. Est-ce que vous et tout d'un coup, on a la sensation que sa responsabilité change. Est-ce que ça peut arriver dans l'esprit d'un peintre de se dire qu'il est responsable de la peinture?
Mais je pense qu'on dialogue en fait, et que si à un moment on monologue, ça devient assez triste. Je pense qu'on ne peut pas envisager son propre travail dans une solitude. Ça n'existe pas. La peinture, ça se fait avec la peinture, et les musées, avec les autres peintres. Donc automatiquement, à niveau d'égalité, ça devait être terrifiant en fait de se retrouver d'un seul coup portés l'un à l'autre, que l'un s'en aille. Il y a une forme d'effondrement qui automatiquement arrive. Et puis, d'un seul coup, il va être confronté, je pense, n'est plus en discussion avec quelqu'un, entre guillemets, de son âge, ce qui n'est pas vrai, mais avec un monstre du même niveau. C'est-à-dire que là, c'est les autres générations qui sont présentes. C'est Cobra, c'est d'un seul coup tout ce qui va arriver des États-Unis. Et là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui a dû être terrible en plus. Et puis en plus, vu sur la haine de l'abstraction, ça devait être aussi assez coton, quoi, comme une espèce de perte
terrible mais, repère.
Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie Bouvard?
Mais c'est vrai que c'est le moment où Picasso, vous me demandez si c'était une peinture philosophique, où Picasso sort du temps ou dialogue avec le temps. Il a toujours cité d'autres artistes, d'autres périodes, il a toujours travaillé d'après Ingres et d'autres. Mais à partir de cette moitié des années 50 et jusqu'à la fin, il travaille avec l'histoire de l'art. Donc il y a le fameux dialogue avec les maîtres, mais dans cette peinture-là, qui, c'est moins apparent, c'est moins de la citation, mais c'est évidemment le Matador de Velázquez, c'est le grand siècle qui réapparaît et le siècle d'or espagnol, c'est Molière, c'est aussi Cervantes. Donc c'est une manière, il a une peinture, comme vous dites, très spontanée, presque enfantine. Il retrouve ce, je crois que Bernadac, dans le dernier Picasso, parle de peinture signe, de peinture parole. Et à la fois, donc il est dans une sorte d'enfance de l'art, et à la fois il réinterroge toute l'histoire de l'art et la création.
Émilie Bouvard, vous avez raison de rappeler cela, c'est ce dialogue avec les maîtres est très important, et la spontanéité est là aussi. Mais en même temps, il n'y a pas un signe dans les tableaux, juvéniles pourtant, qui ne soit pas précis dans son symbolisme, précis dans sa référence. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Calais?
Ce qui est très sidérant, en fait, toujours chez Picasso, c'est le graphisme, en fait. C'est-à-dire, on peut dire, effectivement, c'est un dessinateur incroyable, en plus. Mais il y a une façon de dessiner dans la peinture, comme on dit, qui est là, toujours présente. Et donc, le dessin des toutes petites courbes, des choses comme ça, qui sont comme des virgules, des taches, il y a une codification incroyable et invraisemblable tout le temps partout. Et c'est-à-dire que la surface, ce triangle-ci, le parallélogramme là à gauche, ils vont être différents. Et donc ils signifient et disent autrement. Et il est toujours dans ça. Il n'oublie pas en fait sa syntaxe. Il n'oublie jamais sa syntaxe. Moi, je trouve que c'est pas du tout une peinture enfantine justement. Oui. Pour moi, c'est une peinture ultra élaborée. En fait.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une peinture? Alors, Émilie Bouvard, qu'est-ce que c'est qu'une peinture bien faite et mal faite à la fois?
Oui, c'est ça tout l'ambiguïté. C'est-à-dire que si ce style-là, il se rapproche de l'enfance, c'est parce que tous les éléments du corps sont symboliques, sont signifiants. Quand je disais que c'est une peinture enfantine, j'en ai une naïve, mal faite.
Vous pouvez nous donner un exemple?
Par exemple, à cette époque-là, il peint souvent les yeux comme ça, en oblique l'un au-dessus de l'autre. Il peint les mains que vous aviez présentées dans son introduction, la présence de la cigarette sur...
Posé sur les
doigts en éventail, le signe main devient ça, c'est-à-dire cinq petits, comment appeler ça, ombiliques avec cinq petits ongles. On a le chapeau, vous les avez épelés ces signes dans votre introduction, le chapeau avec le tourbillon, l'ombilique. On a les favoris.
Quand vous dites ça, par exemple, le chapeau avec l'ombilique, donc effectivement, il y a un bicorne pour des raisons très précises, on y reviendra tout à l'heure, qui est une façon de faire un hommage à Goya, mais... Il y a un ombilique, c'est une spirale comme ça à l'intérieur du chapeau. Ça veut dire quelque chose pour vous de précis, Émilie Bouvard?
Non, moi je ne sais pas. Je pense pas que ça signifie une chose précise chez Picasso. Mais par contre, le chapeau, il est fait comme ça. C'est-à-dire d'autres chapeaux qu'on retrouvera dans d'autres peintures pour leur donner ce mouvement, le signe chapeau. Il est fait avec ce tourbillon.
C'est une calligraphie, c'est une grammaire,
un alphabet.
Vous pensez, Stéphane Calais?
Oui, moi je pense, oui, c'est effectivement, là il dispose tout le vocabulaire, il a la syntaxe et puis il a la poésie. Donc alors là, à partir de là, il peut y aller.
Moi j'avais l'hypothèse, mais j'aime bien exagérer les hypothèses, que c'était quasiment la virevolte du torero dans l'arène qui apparaissait dans le rond du chapeau.
Après, chez Picasso, il y a souvent ce plaisir de mettre en haut de la peinture une sorte d'œil, vagin, arène, rond qui attire le regard. On a même ça dans Guernica. Donc c'est une chose qui structure bien le tableau en général.
Alors il y a une chose qui m'a fait plaisir quand j'ai mis du temps lorsque je suis allé à votre musée voir cette salle extraordinaire c'est de la salle donc d'Avignon on peut dire la salle d'Avignon.
Les couleurs tout.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, Stéphane Calais?
Moi je les avais jamais vues donc c'est formidable cette émission parce que justement j'y suis allé pour voir ça et c'était d'une fraîcheur, c'est sidérant. Alors j'ai une question très bête, c'est de lui ou c'est de la glycéro par endroit,
Émilie?
C'est de lui ou c'est de la glycéro?
Me posais la question s'il y avait pas de la glycéro phtalique dans les tableaux.
Non, vraiment
parce qu'il y a des effets aussi qui sont invraisemblables, parce que, bon, évidemment, par superposition, il y a des effets de matité, de brillance, qui sont très très forts et qu'il utilise, mais c'est super brillant.
Et puis il y a des gros empattements.
Qui sont dingues. Et en même temps, d'un seul coup, il y a des embrasures. C'est comme il y avait aussi ce truc de l'énamel, le fameux, la peinture américaine, comme ça.
Non.
Mais à des endroits, on a vraiment cette impression-là.
Il y a un point là-dessus, permettez-moi, Stéphane, de rebondir sur ce que vous apportez. Et là, j'ai besoin de votre expertise, Émilie Bouvard. l'épée. Il tient cette épée qui est quasiment en ostension. Il la soulève, il la présente comme si on allait rendre son épée à quelqu'un à la veille de sa mort. Hein. Alors je fantasme, mais néanmoins, c'est un geste de rendre une épée, c'est pas une geste de porter l'épée. Et sur cette épée, quand on voit bien le tableau et que je vois, Stéphane, que vous l'avez bien observé, il y a des empattements de peinture. Elle est couverte de peinture verte et blanche avec une épaisseur énorme. On a l'impression qu'il vient de la tremper dans la peinture. Mmh. Et c'est ce qu'il essaye de... comme si la bête qu'il avait maîtrisée ou qu'il avait tué, c'était quelque chose comme la peinture.
Ouais, vous me demandiez qu'est-ce que c'est que le dernier Picasso, c'est aussi ça, c'est-à-dire une peinture qui devient soudainement extrêmement épaisse. Et ça, c'est la caractéristique de la dernière période. Donc, ce sont des empattements à l'huile. Sachant que Picasso aime bien utiliser de la peinture toute faite, industrielle, c'est pour ça qu'il est aussi très à l'aise avec. Ici, très fluide. Et vous parlez ici d'une sorte de combat avec la peinture qui serait...
Comme si la peinture se coagulait sur la lame.
Exactement, donc la peinture devient une chose réelle en fait, mais on voit beaucoup ça également dans la peinture érotique de la période, où le corps féminin devient confondu avec la peinture, ce qui est un fantasme de peintre immémorial.
Mais il y a ces palettes en forme de sexe dans lesquelles il met son pouce.
Exactement, donc c'est un moment où si Picasso médite sur l'histoire de l'art dans son ensemble, il médite aussi sur la peinture. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est une période extrêmement, charnelle. Enfin, c'est-à-dire, on a envie de toucher la peinture. Et pour nous, si je reviens à des choses très, très prosaïques, c'est une question de conservation. C'est-à-dire qu'on a des peintures très épaisses, qui craquellent, qui vivent encore beaucoup, qu'il faut... Et là, le plaisir de les... Parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que cette salle Avignon qu'on a faite au musée, c'est la première fois qu'on accroche au musée Picasso les peintures sans cadre, sans verre, en tapisserie. Donc on apprécie cette matérialité picturale de près, et c'est ça qu'on voulait retrouver en retrouvant l'exposition.
Mais moi j'avais eu ce même sentiment extraordinaire, c'est quand moi j'avais eu le bonheur de voir Guernica assez rapidement, quand j'avais 22 ou 23 ans d'aller à Madrid, et quand elle était encore derrière la paroi au blindé, etc. Et quand je l'ai redécouvert des années après, Reina Sofia, sans cadre, juste avec la semence sur les côtés, bon bien sûr les deux gardes, on s'aperçoit de la fragilité invraisemblable de l'objet. En fait, c'est un objet qui flotte un petit peu comme ça. Et là, on a une proximité avec la peinture qui est folle. Et là, on l'a de manière incroyable. En fait, si on compare par exemple avec les baigneuses qui ont ces gros cadres, mais qui ont ce côté comme ça. Moi, j'aime beaucoup les baigneuses qui ont un côté quasi kitsch comme ça. Et là, on est dans une proximité avec l'objet aussi parce que la toile est nue. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Il y a peu d'après, en fait, sur les toiles par endroit. Et donc, en fait, j'imagine que pour vous, au niveau conservation, ça doit être aussi assez complexe de ce côté-là. Mais là, on a une proximité. On a l'impression que c'était fait hier. En fait.
Mais ce que vous disiez, Émilie Bouvard, par rapport à cela, c'est on a l'impression que la peinture sent encore.
Oui, c'est ça.
C'était presque le cas ?
Non, c'était pas à ce point-là. Mais par contre, ce que vous...
Picasso n'est pas tout à fait sec encore. C'est formidable.
Non,
j'adore cette
sensation.
Il est vivant, il est là.
Ouais.
Dites-moi, est-ce que, juste parce que je voudrais en terminer avec mon affaire d'épée qui m'a troublé, cette épée est comme un pinceau, d'une certaine façon. C'est aussi comme une verge, d'une certaine façon. Est-ce que, pour lui, l'utilisation consciente des objets comme métaphore est quelque chose qui vient souvent ?
Ah oui, très souvent. Et là, vous parlez de l'épée, on pourrait parler aussi de la cigarette, parce qu'il y a une série de fumeurs qui est aussi totalement ambiguë. L'épée, elle a l'avantage d'être plus agressive et de signifier peut-être davantage de ce plan-là. Picasso, c'est quelqu'un qui a écrit de la poésie, une poésie qui a des allures automatiques, dans laquelle il y a beaucoup d'objets concrets qui ont une signification comme ça, qui surréaliste, en fait. C'est une construction plus ou moins surréaliste, même si chez lui, c'est comme cette peinture-là, c'est contrôlé, réécrit, refait. Donc, Picasso faisait des calembours, faisait beaucoup de blagues, il adore les jeux langagiers. Et on en parlait pour la grammaire tout à l'heure, mais cette peinture, cette épée, elle est présentée de façon... cette peinture, après, elle devient plus grave, mais elle est encore joyeuse, la peinture d'Avignon de cette époque-là. Ce matador,
il a 89 ans.
Là, il est de 81, donc on est en 71. Oui, il a 90 ans. Preuve où il approche les 90 ans. Et cette épée qui est présentée, on peut la lire dans une version un peu tragique. On peut aussi la lire avec une sorte... Enfin, c'est d'amusement, en fait. On a des récits d'artistes où Picasso évoque sa propre vigueur virile, où il la montre. Enfin, c'est des choses assez trash. Et dans la peinture-là, il y a aussi un humour de ce côté-là.
Alors, on va revenir là-dessus. Avant, on va écouter un très beau texte d'un grand poète qui a moins d'humour, René Char, Picasso sous les vents étésiens. Je vous rappelle que René Char avait fait la préface de la deuxième exposition Picasso à Avignon en 73.
Picasso s'est senti parfois le prisonnier, mais le prisonnier sans geôlier, du parfait savoir qui donne existence à la tristesse et à la mélancolie, mais jamais à la nostalgie. Peintre et graveur de Lascaux, d'Altamira, et partout où fut le taureau, il aima. Même sur Velázquez, il jeta le rouge éclat de rire de sa liberté amoureuse. Parce que la peinture, c'est l'immobilisme et la littérature, la turbulence, à partir de cette figure sommaire, un petit nombre a tendance à distinguer la réalité regardée et rapportée en mouvement discordant comme déjà effacée. Il n'y aura pas chez Picasso la moindre concession à des petitesses caricaturales. L'audace et la crainte veillent aux veines de ses tempes. Combien ont pu s'en assurer? En novateur professionnel qu'il est, Picasso s'est plu à mettre en danger l'héritage, tout en ne négligeant pas de s'appuyer sur lui. Les révolutionnaires s'accommodent mal de la diversité des drames qu'ils provoquent en prêtant à ceux-ci les traits d'un parieur glacial dont les gains se répandent au loin jusqu'à un avenir promis à l'idéal sous le coup encore de nuisances malignes. La doctrine permet d'autres choix. Picasso, ses rencontres et ses inspirations, Picasso soufflant à Picasso, est révolutionnaire par nature. Révolutionnaire, non terroriste. Même dans ses portraits d'amour décent, même lorsqu'il fixe l'image d'un personnage tel que celui-ci espère se découvrir en règle avec la beauté que son miroir ne lui a jamais renvoyée et qui l'éblouirait inopinément. Qui n'est pas pitre dans ses désirs? Chacun se dit sûr de sa perfection. Pas Picasso. S'il faut attendre qu'un grand homme s'éclipse pour mesurer à quelle distance de ses contemporains il a réellement vécu, nous voyons au mois de mai 1973 que Picasso a vécu au plus près de nous. L'oiseau dans ses toiles récentes en est le gage. Mais les dates que le peintre dépose, bien en vue sur quelques tableaux, ont le vol fatidique des oiseaux sauvages, ceux qui sur fond du ciel rendent caduque l'usage du calendrier. René Char, 1979.
Nous sommes sur France Culture et nous regardons cette toile admirable de Picasso, 1970, le dernier Picasso. Et cette toile est accrochée en ce moment au musée Picasso à Paris. Et c'est une toile fascinante. Stéphane Calais, vous êtes avec nous pour en parler. J'ai une question à vous poser. René Char vient dans sa préface à l'exposition de 73 à Avignon de parler de cette période de Picasso et dit au fond, et ça concerne directement ce tableau, peintre et graveur de Lascaux d'Altamira, partout fut le taureau, il aima. Cet artiste que nous voyons là, ce tableau que nous voyons là, représente le matador. Il porte en lui l'origine même de la peinture, le taureau. Et il porte en lui cette épée qui donne la sensation que Picasso veut achever la peinture. Peut-on à la fois être le premier et le dernier peintre?
Je pense que c'est de toute façon le rêve, mais c'est automatiquement le sien aussi. C'est-à-dire que... bon, le rapport au père, c'est une autre histoire, et puis c'est une autre chanson que celle-là. Mais je pense qu'il en avait les moyens, surtout. Et il avait les moyens et l'ambition, dans le siècle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a effectivement les qualités qu'on a propres, etc. Et à un moment, il rencontre le siècle. Donc à un moment, il rencontre ce siècle qui pose ces questions-là, aussi. De tabula rasa et de sa propre grandeur. Donc il va être avec lui, l'accompagner, le devancer et le porter. Ça, c'est un truc de dingue, en fait. C'est-à-dire qu'il rencontre, sans aucun doute, il le sait, il rencontre son temps, il est dedans. Bon, jusqu'à peut-être effectivement la mort de Matisse, qui signe aussi la fin de quelque chose, qui signe la fin du moderne, enfin qui signe la fin en fait des impressionnistes, des fauves, etc. Toute cette vieille histoire très française et qui va devenir ensuite internationale. Et lui, il est à l'intérieur de ça. Donc ce tabula rasa, il la vit à l'intérieur aussi, c'est-à-dire qu'on voit très clairement, il vient du 19e siècle, il va aller sur la Première Guerre mondiale, Dada, il est copain avec tous, etc. Et puis cette rencontre avec Apollinaire et après la Seconde Guerre mondiale, donc Guernica, donc automatiquement il y a ce rapport au premier et au dernier.
Émilie Bouvard, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cet artiste a conscience d'être la fin de la peinture?
Est-ce qu'il en a conscience?
Il n'est peut-être pas d'ailleurs. Parce que
c'est une question. C'est déjà une question en soi. Est-ce qu'il a le désir? Je dirais autrement. Est-ce qu'il a le désir de clore l'histoire de l'art avec lui? Est-ce que c'est dans son désir ça?
Oui. Bonne question.
Merci
de vous la poser vous-même.
Non mais c'est une autre formulation. Je pense qu'il a un désir de. Il a été un artiste qui s'est toujours inspiré des autres. C'est une éponge Picasso. C'est son génie en fait. Il s'est tout recyclé. Enfin c'est quelqu'un qui ferait de l'or. Donc, il a la volonté d'ingérer et d'assimiler l'ensemble de l'histoire de l'art. C'est la dernière peinture qu'on conserve au musée Picasso, ça s'appelle Le Jeune Peintre. Mmh. Donc, c'est une peinture de 72 où on voit, c'est un peu le matador enfant avec son chapeau de mousquetaire, sa cape, une espèce de stylet qui ressemble à un pinceau. Est-ce que ça veut dire, après toute cette histoire, je suis à la fois le premier et le dernier, ça correspond à ce que vous disiez, ou est-ce que ça veut dire, après moi, d'autres générations vont peindre
Alors, j'ai une autre façon de vous poser la question. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'a réussi Picasso dans sa dernière période, celle dont nous parlons aujourd'hui et dont ce tableau, le Matador, est l'une des expressions, mais une expression sublime, je dois dire, est-ce que vous avez l'impression que c'est le moment où Picasso a définitivement abandonné la Grèce? C'est-à-dire, on a l'impression que tout le début de Picasso est le modèle grec. Apollinien d'abord, dionysiaque ensuite. Mm. Mais là, il invente un autre modèle qui est comme s'il fondait une autre civilisation de peinture.
Oui, peut-être. C'est une période qu'on a beaucoup dite baroque pour ses thématiques. Et puis aussi par son outrance et son exubérance. Alors, il y a une Grèce outrancière aussi et dionysiaque. Par exemple, le travail de la ligne, si on parle de ça, est très différent et heurté dans ces tableaux-là. Par rapport à la manière d'Ingres ou de la statue grecque, les visages sont... Enfin, la ligne noire cerne toujours les corps, mais d'une façon disloquée et mouvementée. Est-ce qu'il abandonne l'idéal grec? Je crois qu'il se retourne vers la grande manière espagnole qu'il a habitée. En fait, il se retourne vers sa propre enfance plutôt que vers l'origine de l'art occidental.
Qu'est-ce que vous en pensez, Théva de Calais?
C'est une très belle question, en fait, ces histoires de réinventer en fait, une nouvelle civilisation. Il y a quelque chose chez Goya comme ça aussi, vous en parliez également aussi. Ben, Goya, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre et les constructions, il y a des moments où on comprend rien de comment peut-on les relier, en fait. Il se réinvente tout en étant là aussi complètement dans son époque, en fait. Mm. Et c'est assez sidérant.
À ce propos, je rebondis sur ce que vous dites, Stéphane, si vous me le permettez. Il y a deux ou trois aspects de petits détails iconographiques qu'il est amusant de souligner. Par exemple, dans ce tableau, il y a de nombreux hommages. Vous le disiez tout à l'heure, il y a par exemple Velázquez, on voit très bien. Mais le Goya est assez amusant parce qu'il n'est pas direct. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la représentation de Torero à mi-corps, Pedro Romero, en particulier le grand Torero populaire de l'Espagne du 19e siècle. Mais c'est... ce qui est plus intéressant, c'est les favoris. Il y a les favoris du salut du matador de Manet. C'est exactement ces mêmes favoris énormes, comme ça, en virgule, tout ça. Et puis, il y a un hommage à Goya qui est crypté un petit peu. C'est qu'il est habillé, le torero en question, dans un habit qu'on appelle une goyesque. Pour les toreras goyesques, on a des habits comme ça qui sont brodés, sans or, gris et noir très souvent, avec un pantalon un petit peu plus large. Et là, on est vraiment avec on n'a pas la montera d'habitude, le petit calot comme ça qu'a le torero, mais on a le bicorne. Et donc, c'est un hommage à Goya à travers l'idée même de la goyesque pour laquelle, d'ailleurs, Picasso a dessiné les tableaux.
Et même sur le plan du rapport à Goya, l'usage du noir, enfin, ce Matador, il est peut-être installé dans un fauteuil, il y a une demeure noire derrière. lumière, une sorte de pyramide, et des couleurs qui sont très fantasmagoriques. Dans les peintures noires de Goya, on a des jaunes qui sont absolument irréels.
Oui,
là, là, on a des oranges et des verts pop, en fait, hippies, mais qui sont absolument fantasmagoriques. Donc, l'esprit de Goya, des caprices, il revient aussi, comme il est revenu dans Guernica, comme il est revenu à d'autres époques.
Il y a Paul, son fils, qui, à un moment donné, dit « Mais je ne comprenais pas ce que faisait mon père quand il me parlait des Beatles. »
Ah oui.
Des Beatles.
Ah oui.
C'était les Beatles qui commençaient à l'intéresser. Voilà. Encore un petit détail, la représentation avec le cigare ou la cigarette, mais là je pense que c'est un cigare plutôt, comme la façon aussi d'écraser, c'est traditionnel. Les toreros, on les représente presque toujours avec une cigarette ou un cigare. Je me souviens d'un tableau de Marie Cassatt qui est à Chicago où on le voit comme ça. Mais c'est aussi probablement l'insistance sur la cigarette à cette période-là. Il avait été interdit de cigarette. En 65, il avait une grosse opération, je crois, non ?
Un ulcère.
Oui, donc une sorte
Il est revenu, il a été obligé de revenir à Paris, du sud de la France, pour se faire opérer. Et oui, apparemment, on a le dossier médical au musée, mais on n'a pas le droit de l'ouvrir. Oui. Bah, après, il y a une autre chose avec la cigarette, c'est que c'est un geste où Picasso était énormément photographié avec une cigarette. Donc il peut être identifié quasiment à... C'est l'artiste fumant négligemment.
Vous êtes sûr qu'il n'est pas en train de fumer le cigare de Marcel Duchamp ?
Ah, ça c'est une question. La question des rapports entre Picasso et Duchamp n'est pas finie d'être traitée.
Plutôt celui de Clinton, pensez-vous, c'est Van Galer, oui.
Après, il y a une mise en scène de soi. Il y a une chose dont on parle peu, parce qu'on est... Tout à l'heure, René Char disait la peinture, c'est l'immobilisme. Mais cette peinture-là, chez Picasso, elle l'est pas du tout. Notamment parce que il accroche à Avignon en série, parce que il y a une série, et parce que dans l'atelier, il déplaçait ses peintures comme une petite pièce de théâtre, en fait. Il les présentait aux spectateurs, les uns après les autres. Il leur faisait faire une sorte de parade. Donc ce matador, il fait partie d'une série de matadors, d'un cortège. Et s'il fume, il faut voir ça comme une série de personnages sur une scène qui sont déplacés par Picasso et aussi dans son imaginaire. Et il essaye à Avignon de donner à voir ce théâtre de l'atelier. Donc la cigarette, c'est aussi... faut penser à un acteur sur scène qui fumerait une cigarette à Avignon. Ça fait toujours encore plus réel. On a l'impression que tout d'un coup, il fume pour de vrai, alors qu'il est en train de jouer. Et donc ce tableau-là, il faut le... S'il présente l'épée, il y a une sorte d'ostension comme ça qui participe de la création d'un personnage qui est effectivement le peintre, le grand d'Espagne, le personnage de Molière et autres.
C'est vrai que Picasso et le théâtre, c'est incessant. Donc il n'a pas arrêté de créer les phénomènes de son propre théâtre.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des rapports où vous avez des liens où Picasso parle de Ensor, par exemple, vous parliez du petit théâtre qui fait comme ça Mougins, j'imagine, dans son atelier.
Vous parlez d'Ensor, Stéphane Gallet, parce que ce grand peintre belge.
Oui, voilà, d'un seul coup, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est
du Christ à Bruxelles.
Oui, voilà, et d'un seul coup, je pense à ça, à cette idée de présentation, il y a toujours en fait l'ostentation comme ça, et en même temps cette grande délicatesse de chez Ensor, mais en même temps les personnages sont outranciers à un point extraordinaire. Ordinaire, on sait aussi le rapport qu'elle sort avec tout le reste. Mais c'est pour ça, d'un seul coup, je suis en train de penser peut-être...
Pas à ma connaissance actuelle. Ouais.
Non, mais bon, c'est d'un seul coup.
Donc pas dans l'état actuel des connaissances, Émilie maîtrisant à peu près le corpus.
Je suis désolé.
mais peut-être que... Mais d'autres théâtres de peinture.
Émilie Bouvard, donc il y a quand même un sujet qui est derrière ce personnage, qui est le goût de Picasso pour la corrida. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'il a rencontré la corrida ? Pourquoi elle est si importante ?
Bon, alors Picasso, c'est donc un Espagnol. Il a connu la corrida à Malaga jeune. Ensuite, il a accompagné son père à la corrida. Et il n'a cessé d'assister à des corridas dans le sud de la France lorsqu'il s'est installé après la Seconde Guerre mondiale. En plus, c'est un moment... C'est-à-dire, à un moment donné, la corrida, ça devient un signe de Picasso. Les habitants de Valoris organisent des corridas pour Picasso. C'est comme dans Don Quichotte, quand on organise à la fin des fêtes pour Don Quichotte. Bref. Donc, les choses se... Et alors là, ce tableau, il a une histoire avec la corrida. Parce qu'en fait, Picasso a pratiqué le dessin pendant tout l'été 70. Et quand il revient à la peinture en octobre, il a assisté à ce qui est probablement sa dernière corrida. Donc, c'est une peinture qui... la série de peintures de l'automne 70, elle suit le dernier été où Picasso a assisté à une corrida. Après, il n'en verra plus parce qu'il va bientôt tomber malade et mourir un an et demi ensuite. Évidemment, la corrida, ça, bon, je peux en parler. Chez Picasso, ça a une série. L'intérêt, c'est que c'est une sorte de modèle ou de scène qui peut se prêter à de multiples interprétations qui sont toujours inépuisées. Donc c'est à la fois un symbole de l'Espagne, c'est un moment où se joue l'amour et la mort, comme en parlera très bien Michel Léris, c'est le moment où le matador se risque comme le peintre doit se risquer. On parlait de la mort de la peinture tout à l'heure, la peinture on risque toujours. Et puis à la fin de la vie, il y a aussi des corridas très folkloriques chez Picasso des années 50 qui sont... il a illustré la tauromaquia de Pepe Illo, qui est un manuel de corrida, sont des images très célèbres. Et puis là, à la fin, on retrouve encore le personnage du matador qui est un peu chargé de toutes ces dizaines d'années à travailler la corrida. Donc c'est une scène toujours en tension, parce que toujours dans une signification qui bouge.
Il faut dire qu'elle est très ambivalente. Je veux dire, le passage du masculin au féminin, le matador y apparaît à la fois comme la victime défiant la mort et en même temps le tueur.
Le culte de Mithra, les rites anciens grecs, enfin, il retrouve d'une antiquité sauvage. Enfin, oui.
C'est un sujet que vous n'avez jamais abordé vous-même, Stéphane Calais.
Sauf quand j'étais à Nîmes, bien sûr. Non, oui, si. J'y suis allé, mais c'est très compliqué. Je pense aussi qu'il y a un rapport aussi avec l'écrasement de du sujet par le soleil aussi. Il y a un jeu d'ombre et de lumière très très fort dans la corrida qui est aussi incroyable. C'est un spectacle aussi qui est invraisemblable, donc qui est une force inouïe. Donc non, ça je ne touche pas à ça. Trop compliqué pour moi.
Très compliqué, très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé à Avignon? On disait que les tableaux étaient accrochés comme des cafards qui montraient au mur.
Je crois que c'était beau. Alors, il y a eu deux expos à Avignon. La première, Picasso avait, en 70, Picasso était vivant et avait dit d'accrocher chronologiquement. C'est aussi une chose qui nous obsède en ce moment au musée Picasso,
curieux,
qui intéresse beaucoup Laurent Lebon, qui préside
le
musée.
Laurent Lebon, le remarquable président du musée Picasso.
Et je pense à cette idée de chronologie, l'idée que l'art de Picasso, c'est un journal. Vous savez que tous les tableaux de Picasso sont datés. Là, si on sait que le Matador a été réalisé exactement le 4 octobre 1970, c'est parce que derrière, il y a écrit 4 octobre 70 et qu'il a été fait en une journée. Sinon, il y aurait une autre date. Donc, cette idée de la peinture comme journal, de la peinture qui suit le temps de la vie, et du dessin aussi, enfin, c'est une chose qui est sur les murs d'Avignon. C'est-à-dire, c'est le journal en images, en fait, les murs d'Avignon. Lors de la seconde expo Avignon, donc le Picasso était mort, et il y a eu deux espaces. Un espace consacré plutôt au grand format, thématique, parmi lesquels il y avait cette peinture, et puis un autre espace avec des formats plus petits. Il n'y avait que des peintures. Et là, on rassemblait plus l'image, on était plus par des univers thématiques et fantasmatiques que... Mais je trouve que la première expo Avignon, pour ça, elle est
c'est très paradoxal de la part de Picasso de vouloir être chronologique, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il s'intéresse à la succession des choses, on a l'impression qu'il s'intéresse à l'effusion avec le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Calais?
Moi, je trouve ça assez juste de voir aussi qu'est-ce qui se passe dans une et voir l'autre, etc., et faire ces allers-retours de bons d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, et de comprendre aussi des choses. On comprend aussi quelque chose comme ça quand on peint.
On le comprend d'ailleurs dans le mystère Picasso de Clouzot,
oui,
quand on le voit enchaîner les figures. C'est à peu près la même période ou pas?
C'est 55, le mystère
bien
Picasso.
Avant,
c'est 20 ans avant presque, enfin 15 ans avant.
Oui. C'est présenté dans les premières salles du musée et les gens sont fascinés.
Oui.
Ils regardent cette métamorphose perpétuelle.
Ah,
c'est un des plus beaux films sur l'art de l'histoire.
Oui,
je pense.
Enfin, c'est au niveau fascination, c'est assez invraisemblable ça.
Bah, Picasso, c'est un artiste du process un peu. Enfin,
oui.
On a parlé d'art processuel, mais il est conscient du fait de montrer quels sont ses processus créatifs.
Alors, je vous propose d'écouter enfin un texte de Roger Caillois, un texte que Caillois publie dans Le Monde de 1975. Puis on entendra l'écrivain Guy Scarpetta qui se souvient d'une exposition Picasso qu'il a vue à Avignon, justement.
L'irrespect, d'ordinaire, s'en prend aux dogmes, aux mœurs, aux institutions, aux églises, au pouvoir. C'est-à-dire à tous établissements issus de l'homme, et dont, par conséquent, un homme est habilité à dénoncer le manque de sérieux. L'irrespect, par définition, conteste les valeurs établies. En premier lieu, la légitimité ou le sacré. Il les dégrade d'un prestige usurpé pour les rendre à la médiocrité humaine. L'irrespect inauguré par Picasso est tout autre. Le peintre s'estime en droit de modifier à sa fantaisie les modèles anatomiques qu'il a devant lui, c'est-à-dire l'ordre auquel lui-même il appartient. Le symbole de son art reste, après plusieurs décennies et parmi tant d'autres altérations, un œil installé au centre d'un visage. Roger Caillois, Le Monde, 28 novembre 1975.
Peut-être que le choc le plus, à la fois le plus traumatique et le plus troublant, ça s'est passé pendant cet été 1970, où on avait rassemblé sur les murs du Palais des Papes d'Avignon, pendant tout un été, pratiquement toute la production d'un an de Picasso, c'est-à-dire des centaines et des centaines de dessins, de gravures et de tableaux. Je me souviens d'avoir vécu cette exposition avec un sentiment très ambigu. C'est-à-dire, d'un côté, absolument fasciné par la liberté, l'audace de ce peintre, qui me paraît être une des plus grandes libertés de toute l'histoire de la peinture et peut-être de toute l'histoire de l'art. Et en même temps, c'est quelque chose qui venait un petit peu gêner, déranger, bousculer mes préjugés de l'époque. À l'époque, on peut s'en souvenir, où pour les gens de ma génération, il était à peu près évident qu'il y avait une sorte d'évolution obligée dans l'histoire de l'art, de ligne d'évolution presque darwinienne, et où il allait de soi que la peinture allait vers dans le sens d'une toujours plus grande épuration, d'une toujours plus grande abstraction. Et donc voilà, il faut imaginer un jeune homme que j'étais, d'un peu plus d'une vingtaine d'années, entièrement préoccupé par Pollock, par Rothko et par Barnett Newman, et qui tombe sur un peintre qui non seulement maintient obstinément la figuration, mais en plus semble trouver là-dedans une liberté totalement inouïe. Cette exposition m'a frappé et je crois qu'elle a été pour beaucoup dans la manière dont je me suis dépris peu à peu de cette idée un peu simpliste que l'histoire de l'art correspondait à une ligne d'évolution obligée, qu'il y avait une voie royale, etc. Et je crois qu'il faut considérer Picasso comme un peintre délibérément anachronique, au sens où il ne répond pas à une évolution.
Stéphane Calais, je vous entendais dire, alors qu'on entendait Scarpetta parler d'un peintre anachronique, vous avez dit « c'est bien ça ».
Ça semble très très évident une fois qu'il l'a prononcé, mais c'est très rare d'avoir ce genre de fulgurance. Je pense que là c'est très très fulgurant et c'est très très juste en fait d'être anachronique. De toute façon, dans l'époque, là d'un seul coup, comme on disait tout à l'heure, après Matisse, il n'est plus de son temps finalement, sa peinture n'est plus de son temps, quelque chose d'autre s'est passé, et en même temps lui il s'en moque, il fait ses allers-retours, et il a bien raison, quoi.
Émilie Bouvard, cette exposition s'est passée, donc, qui était conçue par le couple Zervos. Les Zervos, pour le rappeler à nos auditeurs, sont les fondateurs de cette revue admirable qui s'appelait Les Cahiers d'Art et qui ont essayé de faire le catalogue raisonné de Picasso. Et dès qu'ils ont édité le premier tome, ils ont fait faillite immédiatement. Mais ils ont continué à aimer Picasso malgré tout. Et je sais d'ailleurs que le catalogue raisonné va sortir, toujours au Cahier d'Art probablement, grâce à Stefan Arenberg, qui a repris cette merveilleuse histoire de ces cahiers sublimes. Donc, là où je voulais en venir, je me suis perdu dans une circonvolution. Ça ressemble à la fumée de Picasso, je m'en excuse. L'accueil, revenons là-dessus. C'était impossible d'aimer Picasso, vieux, sénile, faisant cette peinture trop libre à l'époque de Greenberg, où on aimait essayer de comprendre comment était constitué le tableau.
C'était difficile. C'était déjà difficile quelques années avant, quand Picasso a fait sa rétrospective au Grand et au Petit Palais. Il y a un numéro incroyable dans lequel les jeunes artistes disent ce qu'ils pensent de Picasso. Il n'y a pas un artiste.
Des noms, donnez des noms.
Je ne veux pas donner des noms.
Ça me ferait plaisir.
Certains sont encore vivants. Mais les artistes disent que non, celui qui a fait la déclaration la plus nette, c'est Harald Zeman, qui a dit publiquement, lors de la mort de Picasso, que le vieux maître était mort et que de toute façon il n'inspirait personne et qu'aujourd'hui si on s'inspirait d'un artiste c'est Marcel Duchamp. Moi je suis à moitié convaincue, ça demande toute une réécriture et une historiographie complexe. Je pense que pour les artistes contemporains...
Je dis juste pour nos auditeurs que Harald Zeman c'est le commissaire culte de l'histoire de la réinvention, de la fabrication d'une exposition et qui en particulier a défendu les attitudes comme forme, comme pour paraphraser son titre.
Oui, et donc quand on regarde en fait l'art contemporain, disons depuis les années 60, Il est en fait très difficile, si on s'attache aux formes plastiques, d'aller dire X est Duchampien, X est Picassien, X prend là où Y. Si on, voilà, c'est assez délicat. Par contre, il est clair qu'il y a aussi des figures d'artistes et des attitudes, justement, et que l'attitude de beaucoup d'artistes dans les années 60, 70 et après, c'est effectivement de se prévaloir de Marcel Duchamp.
Moi qui suis un peu plus âgé que vous, je peux vous dire que les expositions Picasso de 73, donc j'en entendais parler en famille. Et c'était un choc extrêmement violent parmi les gens qui adoraient l'art. Et aujourd'hui, on a l'impression, détrompez-moi peut-être, que cette dernière période de Picasso est une des plus admirées qui soit dans la...
C'est difficile.
Elle garde son insolence
Je crois qu'elle garde son insolence et elle désarçonne aussi beaucoup le public. Enfin, c'est-à-dire, elle est passée dans les mœurs peut-être... peut-être des amateurs d'art. Elle, pour le public en général, elle demeure assez difficile parce que on peut analyser cette peinture en disant qu'elle est effectivement absolument maîtrisée. Douglas Cooper, qui connaissait très bien l'œuvre de Picasso, a parlé en 73 à propos de cette exposition, de barbouillage, de gribouillage, de vieillard sénile.
Oui, c'était vraiment une trahison d'amis. Alors là, vraiment, quel canaille celui-là.
C'était le plus sévère parce que tous n'étaient pas du même tempo. Mais je crois que pour beaucoup de public, ça demeure encore incompréhensible que le Picasso qui a fait Les femmes à la fontaine ait fait ça ensuite. Ça déçoit, en fait, pour beaucoup.
Stéphane Cadet, ne peut-on pas aimer simultanément le Picasso cubiste et le Picasso de la fin? Est-ce qu'on ne peut pas aimer simultanément tout ce que la peinture nous donne, de Duchamp à Picasso, justement?
Si, bien sûr. C'est bien sûr, parce que c'est une joie sans fin et j'allais même dire rebondissante, en fait. Pour revenir aussi à ce que vous disiez, justement, tous les deux, c'est que moi, je me souviens aussi surtout que cette idée-là, comme ça, Picasso, revient, en fait, à la fin des années 70 et début 80, par les dessinateurs punk, en fait. Donc, c'est très amusant, c'est-à-dire, bon, aussi bien les gens de chez Bazooka, avec les faux frères Picasso, qui ne s'appellent plus comme ça après le procès de la famille, et ou Olivia Clavel, ou même des gens comme... Placide et Museau, qui étaient deux dessinateurs invraisemblables, qui sont toujours là, Dieu merci. Et après, Kenny Scharf, tous ces gens-là vont aller piocher là-dedans parce que, justement, c'est disgusting, quoi. Enfin, ça choque, c'est choquant. Mmh. Et ils vont y aller franco, quoi. Et c'est là où ce retour, cette relecture, elle va passer par cette esthétique punk, en fait.
Stéphane Calais, ce que vous dites correspond un peu, on reparlera de Roger Caillois, parce que lui aussi a un rapport ambigu avec Picasso, mais dans le texte que nous entendions de Roger Caillois, et ça, finalement, c'est presque punk, il parle de l'irrespect par définition, l'irrespect inauguré par Picasso, comme voilà, il aurait inauguré l'irrespect de toutes les règles, de tous les codes, de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il faut ne pas faire et qui est sublime quand même. Ça vous convient cette formule ou pas?
C'est très 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 compliqué. Enfin, moi je trouve que ce qui est incroyable Picasso, c'est que c'est quand même un grand artiste populaire. C'est quand même invraisemblable. On n'a jamais eu un artiste populaire à ce point-là, aimé des gens parce qu'il était aussi sympathique. Il y avait quand même des coussins chez les gens avec des Picasso. On n'a plus jamais revu ça depuis. Même Buffet, il n'y a pas eu des coussins en fait. Tout le monde avait le clown affreux, mais on n'avait pas le coussin. Non, mais il y avait quand même une. Il a inspiré des générations de dessinateurs, la mode dans les années 50, c'était du post-Picasso partout. Enfin, donc, je pense aussi que la déception était l'auteur de ça, c'est-à-dire que le type s'en fout complètement, il fait plus que ce qu'il a envie de faire. Donc effectivement, là il va aller travailler dans la masse et dans le sujet, et il va toucher l'humanité même. Enfin, il y a un truc de l'humanité du vieux type qui peint, et il peint ce qu'il veut, il s'en fout. Et donc, il va peindre ses obsessions. Donc effectivement, que ça soit aussi bien le corrida que les femmes à poil, mais il va toucher à un truc qui est essentiel et fondamental.
Incroyablement humain, profond dans ce qu'est être humain.
Oui,
quoi.
Oui, la chair est là, quoi. Oui. On parlait de ça, c'était ça, là, c'est l'incarnation, pure et dure.
Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez sur le punk et sur les dessinateurs punk, que je connais très mal. Par contre, en ce moment, je travaille sur des rapports entre Picasso et le graphe, ou le muralisme contemporain. Et il y a beaucoup de liens, en fait, à la fois parce qu'il y a cette figuration, parce qu'il y a cette image d'artiste, cette idée d'un artiste politique et irrespectueux, et aussi un lâchage du trait qui inspire beaucoup, je crois. Et d'abord, des Picasso sont refaits sur les murs tout le temps. Et ensuite, on trouve beaucoup d'allusions directes. Voilà, il est beaucoup plus représenté sur les murs dans l'espace urbain que n'importe quel autre artiste.
Il y a ce dessin fantastique que vous avez, au dernier étage, où un petit dessin où il a fait « À ta santé, Staline
oui. ».
C'est inimaginable, ce truc, quoi. En plein Staline, où les gens sont complètement fous, Staline, à ta santé.
Non, mais là où c'est comique, c'est en plus c'est un verre de vin, parce que vous savez que les communistes militaient pour le vin français contre le Coca-Cola. C'est l'époque où voilà et donc à ta santé Staline, c'est doublement ironique pour l'anniversaire de Staline,
violent.
Pour les pubs du communiste français pour le vin français.
Stéphane Calais, ce Matador que nous avons regardé ensemble, est-ce que vous y voyez comme on le fait souvent, mais est-ce que ce n'est pas trop facile une mort présumée, cette pyramide noire derrière, est-ce que c'est là, 90 ans, on s'inquiète?
Je sais pas, c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout. J'ai peut-être plus pensé sur des... Bon, ça paraît assez évident, mais effectivement, par contre, les études de Guernica ou des choses comme ça m'y font franchement penser. En fait, on sait que c'est un massacre, de toute façon, mais je sais que j'avais toujours été touché par le... il y avait quelque chose sur la peine et la puissance du dessin qu'il exprimait très très fort. Là, j'ai jamais pensé.
C'est souvent commenté comme cela, et je dois dire que moi-même, j'en comprends le sens de ces. Dans La Tristesse du roi de Matisse, par exemple, il y a une fenêtre noire au fond.
Ça, par contre, c'est autre chose,
on a l'impression qu'on peut passer au travers. Là, je peux comprendre le sens de ce grand tombeau pyramidal, mais en même temps, il y a tellement de vie dans la peinture. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, moi, je ne crois pas du tout que Picasso soit. Enfin, comme dans un style tardif tel que le décrit Édouard Saïd dans son livre sur le style tardif, où on est vraiment dans une mélancolie, une tragédie, un isolement. Je pense que c'est un tableau qui est, à nouveau, j'insiste, quand même assez drôle. Enfin, j'insiste peut-être un peu, mais il y a une forme de grimace, il y a l'épée. Et le noir chez Picasso, c'est quand même un artiste qui a fait beaucoup de grisailles, qui a beaucoup peint avec les valeurs. Le noir est aussi un noir, en Espagne, le sens du noir... Enfin, c'est une couleur absorbante qui, évidemment, on peut penser au deuil et à la mort, mais qui a aussi une sorte de profondeur en elle-même qui intéresse. Non, je pense que c'est un tableau qui...
Le dessin de Corrida dont vous parliez, justement, qui n'exprime que le soleil juste par le noir, en fait.
Ouais. C'est aussi un travail de peintre sur les valeurs. Il y a des peintures de Picasso tardives qui ont des autoportraits en tête de mort, des choses comme ça, où la mort est clairement thématisée. Là, je pense qu'on est dans une ambivalence totale du torero qui... Ou alors, c'est la dernière cigarette avant la mort, mais avec une sorte de légèreté.
Il y a plus d'humour que ça.
Il y a quand même une légèreté dans ce tableau qui...
Les goguenards, tout de même.
Voilà,
ouais.
Et qui est très goguenarde et qui... Voilà. Et puis, il faut toujours penser à cette histoire des séries. C'est-à-dire que là, on voit une peinture, on se dit c'est le Matador, du coup, on le hausse en quelque sorte, on le présente. Mais ce qu'on a fait dans la salle au Musée Picasso et ce qui se passait à Avignon, c'est que des matadors, il y en avait des dizaines. Donc il faut voir une série, en fait. Donc c'est pas le matador incarnation de quelque chose, c'est des dizaines de matadors qui créent une sorte de chose étourdissante, quoi.
Picasso a été le minotaure, il a été le taureau, il est le matador, non? Il y a une identification à ces sujets en permanence.
C'est très très sain, oui, c'est tout à fait sain, oui.
Stéphane Calais, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et nous avoir inspiré. Merci beaucoup, Émilie Bouvard. Merci infiniment.
Merci.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé ensemble la vivacité extraordinaire de ce tableau fait alors qu'il avait 90 ans par Picasso, le Matador. Réalisé le 4 octobre 1970 entre 14h et 19h30 par Pablo Picasso. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr, site merveilleusement... Travaillé, accompagné, enrichi par Sylvia Favre, notre attachée d'émission. Lecture des textes Thierry Gibault, à la technique Pierre Monteil. Réalisation Franck Lilin, merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et de Jean Deloisy.
Come until you